de Chartreuse.
Votre magazine d'infos locales.
Échanges.
Curiosités.
Divertissements.
Infos de proximité.
Actions culturelles et éducatives.
Environnement.
Bouillon de Chartreuse.
C'est en Chartreuse.
Pour la Chartreuse.
Rien qu'en Chartreuse.
Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bouillon de Chartreuse qui se penche sur le thème de la discrimination des femmes, surtout en cette période de crise sanitaire. Alors on va d'abord faire un point d'actualité avec le planning familial de Grenoble et ensuite nous irons faire un tour du côté du monde de l'édition qui se transforme actuellement et qui donne la parole à tous, mais surtout à toutes. Bonjour, nous sommes avec Pauline Coiffard qui est chargée de communication pour le planning familial. Bonjour Pauline.
Bonjour Catherine.
Et donc, on est là un petit peu pour faire le point, voir l'évolution du planning en cette année super difficile. Je vais quand même rappeler ce qu'est le planning parce que ça paraît incroyable, il y a encore des personnes qui savent pas trop ce que c'est. On peut dire que c'est une structure féministe et d'éducation populaire, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et qu'il existe quand même à Grenoble, par exemple, depuis 1961. C'est le plus vieux planning de France.
Oui, c'est le plus vieux planning de France. Et c'est aussi aujourd'hui un des plus grands en matière de maillage territorial, puisqu'on a commencé par l'ouverture d'un centre à Grenoble, mais on s'est développé. Maintenant, on est aussi dans plusieurs maisons des habitants sur le territoire grenoblois, mais aussi à Échirolles-les-Bains, à Saint-Égrève, dans la vallée du Grésivaudan. On est aussi à Bourgoin-Jallieu et à Villefontaine.
Oui, il y a quand même 11 centres et antennes, si je me rappelle bien.
C'est ça.
Alors donc, vous défendez aussi le droit à la contraception, à l'avortement, à l'éducation, à la sexualité. Vous dénoncez, vous combattez toutes les formes de violence. Vous luttez contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, mais aussi contre toutes les formes de discrimination et les inégalités sociales. J'ai bon résumé ou pas ?
C'est bien résumé. Oui, c'est très bien.
Donc, je voulais déjà vous demander, le planning a traversé comment cette crise sanitaire ?
Je pense comme tout le monde, on a eu un petit moment de flottement où on s'est demandé comment est-ce qu'on allait réorganiser nos activités. Après, en ce qui concerne les activités de nos centres de planification, il n'a jamais été question de les fermer. Donc on s'est réorganisé comme on a pu. On a fait pas mal de choses à distance. On a ouvert entre nous une plateforme d'échanges et de discussions pour que toutes les équipes salariées puissent continuer de partager avec l'équipe soutien aussi du planning. Et puis on a continué de se voir, alors pas forcément physiquement dans un premier temps puisqu'il y a quand même eu la question du confinement et de comment est-ce que on se réorganise, mais on a continué de ne pas laisser
tomber les femmes.
Non, je veux dire, on a continué de recevoir des usagères, de leur permettre d'accéder à la contraception ou d'accéder à l'IVG ou de pouvoir continuer aussi de nous contacter pour des situations de violence. Pendant le confinement, notamment, on a ouvert aussi deux plateformes de chat en ligne pour justement toutes ces situations qui pouvaient être particulièrement difficiles pour parler sur de la contraception, sur de l'IVG, sur... On est confiné dans un cercle familial qu'on a peu ou pas de possibilité de s'isoler. Et du coup, ces plateformes-là, elles existent toujours puisqu'on s'est dit que c'était justement un ajout important à notre arc, on va dire, pendant cette période-là, mais que ça pouvait nous servir, que ça pouvait servir surtout aux usagères et aux usagers du planning par la suite.
Et j'ai vu aussi que vous avez lancé une page de Facebook dédiée qui s'appelle Victimes, Violences, Confinement.
Oui, c'est exactement de cette page-là dont je vous parlais.
Ah oui, j'avais pas compris si ça concernait aussi les problèmes de contraception et tout, ou si c'était vraiment centré sur les violences intrafamiliales.
C'est vrai que c'était dans l'idée centrée sur les violences conjugales et intrafamiliales, mais de toute façon, on sait que nous, en tout cas au planning, on n'est pas visibilisés sur ces problématiques de violence en première ligne. C'est-à-dire que on vient très rarement au planning familial, encore même si on peut, hein, mais on vient rarement au planning familial avec pour premier motif une question ou un accompagnement relatif aux violences. On vient pour un motif, par exemple, de contraception ou de demande d'IVG ou d'accompagnement sur une question liée aux sexualités, par exemple. Et c'est pendant l'entretien, pendant la consultation, que va se révéler potentiellement une situation de violence. Mmh. Et du coup, c'est rarement, en tout cas, le premier motif. Pour autant, nos conseillères sont formées à l'accompagnement, à l'écoute et à l'orientation des victimes de violence, si jamais ça sort de leur cadre d'expertise.
Oui, et du coup, les conseillères orientent la personne vers des structures qui sont plus spécialisées dans les violences, comme l'association Milena, par exemple.
Voilà, s'il s'agit de femmes victimes de violences conjugales, par exemple, ou directement, ça nous arrive de plus en plus d'orienter, parce que il y a plusieurs types de structures, il y a plusieurs types de violences. En fait, les violences, on pense souvent aux violences physiques, aux violences sexuelles, dans un couple, mais il y a toutes sortes de violences auxquelles on peut être confronté au cours de sa vie. Ça peut être des violences économiques. On a beaucoup de femmes précaires parmi le public du planning. Ça peut être aussi des violences sexistes. Ça peut être aussi des violences lesbophobes, par exemple. Ça peut être plein de types de violences différentes, et nos conseillères sont formées, du coup, et nos soignantes aussi sont formées à écouter, à accompagner et à réorienter. On a aussi parfois des demandes d'hébergement d'urgence, et souvent, du coup, le dispositif, c'est de réorienter vers Solidarité Femmes Milena, mais toutes les femmes victimes de violences rentrent pas forcément dans les cases du dispositif violence conjugale. C'est-à-dire, par exemple, que une femme sans papier qui vit à la rue, elle n'est pas considérée comme une victime de violence conjugale. Pour autant, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas victime de violence. Donc, on ne peut pas forcément la réorienter vers Solidarité Femmes Milena. Mmh. Par contre, on va pouvoir la réorienter vers d'autres centres d'hébergement d'urgence, par exemple.
J'ai vu des statistiques selon lesquelles les forces de l'ordre avaient été sollicitées 30% d'appels en plus qui concernaient les violences pendant le confinement. Est-ce que vous avez constaté quelque chose du côté du planning ?
Là-dessus, c'est vachement difficile de répondre. On a les mêmes chiffres que vous, qui sont issus du numéro vert de la plateforme 3919, qui est tenue par justement par Femmes Solidarité, et qui correspond donc à ce qu'on peut appeler une explosion des situations de violence pendant le confinement. Au planning, comme je vous disais, comme on n'est pas visibilisé sur cette question-là, nous, on a ce qu'on a perçu, ce qu'on a vu dans nos chiffres au numéro vert national, par exemple, c'est effectivement une augmentation des appels sur les questions liées à la contra, à l'IVG et aux violences. Et une baisse aussi des appels liés, par exemple, au dépistage des IST ou alors à des situations des demandes, on va dire, d'écoute sur des demandes liées aux sexualités ou des situations de couple. Mais c'est difficile de dire. Aujourd'hui, on a encore trop peu de recul, je pense, sur ce qui s'est passé pendant le confinement.
Oui.
Et là aussi, ce qui risque de se passer, parce que le couvre-feu, c'est une sorte de confinement de nuit, si on peut dire. Et là-dessus aussi, nous, le message qu'on veut faire passer, sur lequel il faut qu'on insiste toutes, je pense, c'est sur le fait que le couvre-feu ne s'applique pas aux violences. Ça s'applique pas aux violences conjugales, ça s'applique pas aux violences intrafamiliales. Que le 3919, c'est un numéro d'écoute, d'orientation anonyme et gratuit qui est ouvert tous les jours, qui s'affiche pas sur la facture de téléphone, donc il faut vraiment pas hésiter à les contacter. elles sont sur l'ensemble du territoire, donc elles pourront réorienter vers l'association la plus proche, vers le dispositif d'accueil, de soutien ou d'hébergement le plus proche. Pour les violences qui concernent plus spécifiquement les enfants, c'est le 119 qu'il faut contacter. Pour une demande d'hébergement en urgence, là c'est le 115. Et en cas d'urgence vitale, il ne faut pas hésiter à faire le 17 ou à envoyer, c'est maintenant possible aussi, un SMS au 114, si jamais on ne peut pas se permettre d'appeler.
Ben merci. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment important de rappeler que ça
ne s'applique pas aux violences, le confinement ou le couvre-feu.
D'accord. Oui, je disais merci d'avoir rappelé tous ces numéros. Ils sont vraiment importants, ils peuvent sauver des vies. Hein.
Oui.
Et sinon, j'ai vu que récemment, vous êtes allié, on va dire, avec la compagnie des Féroces, en deux mots, pour faire une action de sensibilisation au harcèlement de rue.
Oui. Alors c'est pas avec la compagnie des Féroces qui participe aussi cette année, mais nous, on était avec la compagnie Ruelle.
D'accord.
Qui est une autre compagnie de théâtre forum, avec laquelle on participe maintenant, ça fait 5 ans, je crois, qu'on fait des actions de rue comme ça, de sensibilisation au harcèlement de rue, et qui nous, pour nous, qui sont des actions très importantes parce que ça permet justement de parler du harcèlement, mais sous une forme différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire des chiffres qu'on nous donne, 100% des femmes ont été harcelées dans les transports en commun au moins une fois dans leur vie. Là, c'est l'occasion, avec le Théâtre Forum, qui est un outil hyper intéressant, de montrer en direct une scène de harcèlement qui est jouée par des comédiens et des comédiennes, et ensuite d'utiliser du coup la force du groupe, la force des spectateurs et des spectatrices, pour rejouer la scène, déjouer les mécanismes qui sont autour de cette scène de harcèlement et essayer de trouver des moyens collectivement d'y répondre et d'empêcher ça pour que à l'avenir, si on se retrouve dans cette situation, parce que en vérité on l'a toutes vécu et tous vécu, je pense, en tant que spectateur ou en tant qu'actrice, cette situation, qu'on ait des réflexes un peu ou qu'on se dise du coup là je vais pas rester impassible devant la situation.
J'ai vu d'autre part que le planning, du côté d'une nouvelle technologie, est vraiment devenu au goût du jour. Il y a une application maintenant qui s'appelle PillOps. Oups, comment vous prenez ? Vous prononcez ça comment, vous qui êtes plus jeune ?
Je ne sais pas trop.
Ouais. Oups, ouais. Ça, c'est pour ne pas oublier sa pilule.
Oui, c'est une application. Alors, je ne peux pas tellement vous en parler parce que je la connais peu et je ne sais pas trop si nos conseillères la recommandent à leurs usagères. Mais oui, c'est forcément, en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle pratique qui se met en place, on ne peut pas, dans tous les cas, passer à côté. En ce moment, on a aussi beaucoup de... On a un certain nombre de demandes, par exemple, autour des contraceptions ou des outils de régulation des naissances, c'est-à-dire des méthodes de contraception dites naturelles, et je mets des grosses guillemets sur naturelles, mais... c'est un constat qui se fait, qui est lié, par exemple, à une méfiance sur la pilule contraceptive hormonale, qui est lié aussi à plus, je pense, d'envie de femmes, notamment de mieux connaître leur cycle, de mieux connaître leur corps, et du coup, parfois, de se passer justement d'un contraceptif hormonale, ou de se passer d'un dispositif intra-utérin qu'on aurait du coup pas la possibilité ensuite d'enlever nous-mêmes à notre guise. Et du coup, sur toutes ces questions-là, comme sur les applications, c'est pour ça que je fais le lien, parce qu'il existe aussi pas mal d'applications de ces méthodes dites naturelles de contraception.
Ah oui.
Et c'est des choses sur lesquelles il faut en permanence se former, parce que en fait, on part toujours du constat, du principe au planning, que si les méthodes, elles existent, si les outils existent, il y aura des personnes pour s'en servir. Donc, il faut absolument qu'on soit en capacité d'en parler.
Et dans les nouveautés, on peut citer quel genre d'événements ?
Dans les nouveautés, là, on vient de quasi clôturer notre collecte annuelle de protection périodique. Qui est une semaine donc de collecte et ensuite du coup de redistribution à travers 40 associations du territoire qu'on fait depuis 2 ans maintenant avec la ville de Grenoble. L'idée, c'est à la fois de pouvoir collecter un maximum de protection périodique pour les femmes et les personnes menstruées précaires qui viennent, alors qui sont des usagères du planning, mais qui sont aussi des usagères de plein d'autres associations. On travaille avec le local des femmes SDF, avec l'Amicale du Nid, avec l'appart, avec plein d'autres associations, et dans le réseau des associations qui redistribuent, on va trouver le Secours Populaire, la Croix-Rouge et plein d'autres associations qui font déjà des actions de redistribution sur plein d'autres types de dons, on va dire. Donc y a cette partie-là qui est très pratico-pratique et en fait qui consiste à dire on estime en tout cas aujourd'hui en France qu'il y a environ 1,7 million de femmes et de personnes menstruées qui souffrent de précarité menstruelle. Ça veut dire que concrètement, ce sont des personnes qui parfois doivent choisir entre s'acheter des protections périodiques ou s'acheter à manger, ou alors qu'elles utilisent des protections de fortune, par exemple du papier toilette qu'elles mettraient dans leur culotte, faute d'avoir les moyens de s'acheter des protections périodiques. Donc ça, c'est de l'action vraiment concrète de redistribution. Et ensuite, on se sert aussi de cette semaine de collecte comme un prétexte pour pouvoir justement sensibiliser à la précarité menstruelle plus largement à travers des tables rondes, à travers des conférences. On en a tenu une sur l'endométriose et je pense qu'on va la refaire dans pas longtemps parce que l'endométriose, c'est une maladie qui est encore vraiment très, très peu connue, qui est une maladie chronique, qui est lié à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine qui se trouve en dehors de l'utérus et qui peut provoquer de très très fortes douleurs, voire parfois des incapacités à travailler pendant certains jours du cycle. Donc toute cette semaine-là, ça nous permet justement d'appuyer sur le sujet de fond, sur les règles, de rappeler que les règles, c'est pas sale, que ça doit pas être un tabou, et que ça concerne quasiment 50%, plus de 50% de la population mondiale, et qu'on en est toujours à devoir payer les protections périodiques, alors qu'on ne devrait pas avoir à payer pour saigner. C'est pas quelque chose qu'on peut choisir d'avoir ces règles. Et du coup, c'est important de continuer de le mettre au cœur du débat aujourd'hui pour que ça devienne un produit de première nécessité qui soit soit gratuit, soit entièrement remboursé par l'État.
Il y a quelque temps, on avait sorti la fameuse CAP, je ne sais pas comment on dit. Est-ce que ça pourrait résoudre le problème?
La CAP, c'est intéressant. En fait, la CAP, comme toutes les protections périodiques, elles n'ont pas vocation à se substituer les unes aux autres. C'est-à-dire que dans le parcours de vie d'une femme menstruée, par exemple, on peut imaginer que quand elle est, je vais donner un exemple d'un parcours fictif, hein, mais d'une jeune fille, on va dire, qui commence à avoir ses règles et qui va d'abord utiliser des protections périodiques, des serviettes jetables, puisqu'elle commence son cycle, le cycle est encore très aléatoire, et puis c'est peut-être la protection qui est la plus facile à utiliser. Quand on commence, on va dire, peut-être que plus tard, elle aura envie d'utiliser des tampons. Et peut-être que d'ailleurs, les tampons lui conviendront mieux à cette période de sa vie et qu'elle utilisera plus du tout des serviettes lavables, jetables. Peut-être que plus tard encore, elle va découvrir la cup, que ça lui conviendra bien. Ou peut-être qu'elle se dira que non, en fait, elle n'a pas envie d'insérer à l'intérieur d'elle une cup et qu'elle préfère, les culottes menstruelles, par exemple.
Et ça marche, d'ailleurs.
Pardon ?
On voit plein de publicités au sujet de ces culottes lavables. Ça marche bien,
ouais.
Ça ?
Ça marche bien. Ça dépend du cycle qu'on a. Chaque cycle et chaque personne est différente. Et du coup, c'est pour ça que je dis qu'elles sont complémentaires et pas substituables, enfin, parce que ça dépend de l'abondance, du flux, du nombre de jours que ça concerne, parce qu'une culotte menstruelle, ça peut être hyper intéressant, mais il faut en avoir plusieurs pour pouvoir avoir tout son cycle en utilisant des culottes. Et après, il y a aussi le fait que ça concerne, par exemple, une cup. Pour pouvoir utiliser une cup, faut encore pouvoir la stériliser. Il faut avoir un accès à l'eau potable.
Ah bon ? D'accord.
Et ouais. Pour avoir des culottes menstruelles, il faut avoir de quoi les laver. Et du coup, c'est pour ça que nous, dans notre collecte, on focalise beaucoup l'attention sur les serviettes lavables, les serviettes jetables, pardon, parce que c'est ce qui est le plus simple à utiliser. Et que bien souvent, malheureusement, le public qu'on rencontre, le public qui est vraiment le cœur de cible de cette collecte, à l'intérieur de ce public, on va trouver des femmes en situation parfois d'extrême précarité, on va trouver des femmes qui dorment dehors, on va trouver des étudiantes précaires, et ces personnes-là n'ont pas nécessairement la possibilité, en fait, de stériliser la cup ou de laver la culotte de règles. Et c'est pour ça que toutes ces protections, elles ont vocation à coexister et qu'au cours d'une vie, on peut se retrouver à être d'abord une jeune fille qui voudra des serviettes parce que c'est plus simple, et puis peut-être une étudiante précaire qui pourra pas se payer une cup, mais 10 ans après, elle pourra. Et peut-être que dans son parcours de vie, à un moment, elle aura un parcours accidenté qui l'amènera à être très précaire, à être à la rue, par exemple. Et voilà, et toutes ces protections, elles ont vocation à coexister ensemble.
Oui. Il paraît aussi que le planning est membre de plateforme Droits des Femmes Isère. Alors là, de quoi s'agit-il ?
La plateforme des Droits des Femmes, anciennement, c'était une plateforme qui s'appelait la plateforme IVG, et qui est en fait un regroupement de collectifs, d'associations, de syndicats et de partis politiques, et d'individus aussi, qui se regroupe. Elle est très ancienne, la plateforme, elle doit bien avoir une vingtaine d'années, peut-être 25 ans, je ne sais pas exactement la date de création, mais en gros, elle se réunit une fois par mois, une fois tous les 2 mois, en fonction de l'actualité de l'année, sur des questions féministes qui touchent à Grenoble et puis aussi à l'Isère en général. Avant, c'était vraiment une plateforme dédiée, on va dire, à l'IVG. Et puis, elle s'est ouverte à plein de sujets beaucoup plus larges. Et du coup, c'est une plateforme qui est hyper intéressante parce que elle permet un échange entre des partis politiques, des syndicats, des associations, des collectifs aussi qui ne sont pas des associations, et des individus qui viennent se réunir autour de sujets féministes.
Et le planning, c'est ouvert aussi à l'international. Vous faites partie aussi du réseau Mariage Forcé 38.
Ouais. Oui, on fait partie du réseau Mariage Forcé, qui est un réseau national avant d'être international, parce que le mariage forcé, il existe en France. Alors, j'ai pas des chiffres exacts là à vous donner, mais pour nous, c'est un réseau qui est hyper important et qui a malheureusement, en tout cas en Isère, qui est qui a perdu pas mal de subventions. Mmh. Au cours des dernières années, et qui du coup a beaucoup de mal à se redynamiser. Pour autant, le numéro, il fonctionne toujours, il y a toujours une personne derrière. En gros, il y a 6 associations qui sont derrière ce numéro. Il y a le planning, il y a l'Amicale du Nid, il y a le Rialto, l'Appart, et j'en oublie une, peut-être Solidarité Femmes. Je me souviens plus exactement, il faudrait que je re-regarde. Et l'AIV, l'association d'information aux victimes, et qui du coup se font tourner le portable, et donc le numéro est toujours en veille, quoi, toujours possible d'appeler, et pareil pour l'adresse mail, c'est toujours possible d'envoyer un mail, il y a quelqu'un derrière.
Mais concrètement, si une jeune fille appelle et elle dit au secours, on veut me marier, je veux pas, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces cas-là?
Chaque situation, elle est hyper, hyper différente, et du coup, ça va dépendre de sa situation, de sa localisation, de plein de choses différentes. Et je sais pas comment vous répondre mieux que ça, parce que l'idée, c'est de, c'est chaque corps de métier qui est derrière ce numéro, les conseillères, les travailleuses sociales, les assistantes juridiques, tout ça, elles travaillent en réseau pour essayer d'accompagner au mieux la personne et de la sortir du contexte dans lequel elle est.
Oui, ça doit être assez compliqué. Est-ce que vous avez d'autres infos à faire connaître?
Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses.
Oui, le prochain événement organisé par le planning, est-ce qu'il est... c'est difficile en ce moment d'organiser des choses, par ailleurs.
C'est pour ça que je ne saurais trop que vous dire. On a le festival Les Dérangeantes qui continue malgré tout en ce moment. Et on a une prochaine séance le 12 novembre. Qui est la séance de clôture sur un film dont je peux pas vraiment vous parler parce que je l'ai pas vu, donc c'est pas génial comme information, qui s'appelle Aurore. En novembre, on a un film qu'on présente avec l'équipe de Saint-Égrève à l'Avant-Scène le 24 novembre, qui est un film sur le sexisme, s'appelle Le sexisme, c'est pas mon genre, et qui est vachement intéressant parce qu'il présente le sexisme à travers 3 prismes différents qui sont celui du sexisme dans le monde du travail, le sexisme dans l'espace public et le sexisme dans la sphère privée. Et à travers différents témoignages de femmes qui du coup ont accepté de confier aux réalisateurs leurs histoires et qui met tout ça en perspective à travers aussi des mouvements militants et féministes actuels. Et voilà, le film est hyper intéressant et je vous le conseille.
Oui, parce que donc Les Dérangeantes...
Les Dérangeantes, c'est le festival de cinéma du planning.
Oui, qui a lieu chaque année.
Pardon ?
Il a lieu
chaque année. Chaque année en mars, normalement. Et donc là, en mars, si vous voulez, on a eu le temps de faire 2-3 séances avant le confinement. Et du coup, là, on fait les dernières séances en octobre-novembre pour l'année 2020. Et c'est un festival qui a la particularité donc d'être porté entièrement par l'équipe de l'interquartier du planning familial. Donc en fait, dans chaque antenne, dans chaque maison des habitants dans lesquelles on a une antenne du planning, on a des conseillères qui se réunissent avec un groupe de femmes pour choisir. Elles visionnent tout au long de l'année des films et elles choisissent celles qu'elles préfèrent sur la thématique qu'elles ont envie de creuser dans l'année. Et ensuite, ce sont ces films-là qui sont présentés à travers les dérangeantes et qui sont tout le temps suivis du coup d'une discussion avec là où les conseillères et là où les femmes concernées qui ont choisi la thématique et le film.
Eh ben, merci beaucoup, Pauline, pour ce tour d'horizon.
Eh ben, merci à vous, Catherine.
Et puis, on se tient au courant de l'actualité du planning en ces temps difficiles. Ouais. Voilà. Merci.
Super. Eh ben, merci.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
So black and blue, when all I did was loving you. Why on earth can't stand the pain? Why did you do that thing again? So black and blue, when all I did was loving you. Why on earth can't stand the pain? Why did you do that thing again?
Votre magazine local, culturel, éducatif, économique et environnemental.
Pour savoir ce qui se passe autour de chez vous.
C'est le samedi et le dimanche à 11h.
Christophe Lahondès nous fait maintenant découvrir Nombre 7, seule alternative équitable et citoyenne dans la jungle de l'édition, avec comme super bon exemple Marine Lemercier et son cahier de dessin au sujet d'Octobre Rose. Nous sommes donc avec Christophe Lahondès, on va parler de la maison d'édition qui bouge les lignes, je parle de Nombre 7, vous allez bien là-bas à Nîmes ?
Ben écoutez, oui, ça va, on a eu un petit peu de vent, aujourd'hui il fait un petit peu maussade, mais habituellement, on est baigné par le soleil.
Ah oui, c'est clair. Hein. Non, mais je connais bien, il fait une chaleur. Donc, c'est d'autant plus une bonne raison pour rester devant son ordinateur avec la clim. Et on va parler de Nombre 7, donc une maison d'édition qui a pris toute sa dimension en ces périodes de crise sanitaire, sociale et économique. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venue l'idée de cette maison d'édition pas ordinaire ?
Alors, moi, j'ai commencé en fait en dirigeant une... Je dirigeais une imprimerie. C'était l'imprimerie où l'on fabriquait les romans dont vous êtes le héros, les romans personnalisés. Mmh. Et donc, en dirigeant cette imprimerie, moi, j'ai rencontré plein d'auteurs qui étaient en auto-édition et je les ai accompagnés à réaliser leur ouvrage. C'était un accompagnement personnalisé, mais ces personnes-là, en fait, souffraient d'une carence de reconnaissance alors qu'il y avait des perles qui étaient publiées. Et donc, en fait, je me suis toujours dit qu'il faudrait trouver une solution pour leur permettre, pour leur donner accès à l'édition avec un grand E. Et donc, depuis 2009 que je suis dans ce métier-là, j'ai trouvé une solution. J'ai quitté cette société en début 2012 et puis j'ai créé Nombre 7, où en fait, je leur ai déjà offert une vitrine pour qu'ils puissent promouvoir leurs ouvrages parce qu'ils n'avaient pas de visibilité et je pensais que le net était une bonne solution déjà pour leur donner, je dirais, un peu de notoriété. Oui. Ensuite... Oui, pardon.
Non, allez-y, continuez.
Ensuite, j'ai développé cette activité-là. Et en 2017, un ancien collègue est venu me rencontrer. On en avait déjà parlé plusieurs fois. Et lui a des vraies compétences, en fait, en matière de marketing numérique et de gestion, en fait, de logiciels pour optimiser les chaînes de réalisation, les chaînes de création. Il avait déjà fait ça donc avec la société dans laquelle on s'était rencontrés et donc on a décidé après avoir beaucoup travaillé ensemble de réaliser donc une maison d'édition qui permettrait aux gens d'avoir une grande visibilité, donc augmenter leur notoriété, augmenter l'autorité de leurs livres tout en étant éco-responsable puisqu'en fait l'idée c'est aussi de fabriquer les livres à l'unité et nous avons réussi à résoudre toutes ces équations-là en rendant aussi rentable donc la réalisation des livres et permettre aux auteurs d'être mieux rémunérés.
Oui, parce qu'on pourrait se dire les nouvelles technologies, c'est pas accessible à tout le monde, mais en fait, dans votre cas, là, c'est vraiment plus juste, parce que les librairies, par exemple, nous, on habite dans la Chartreuse, tout le monde n'a pas une librairie sous la main, je pense aux personnes âgées, aux personnes qui ont des difficultés pour se déplacer. Là, au moins, eh bien, on peut accéder à tout ce qui sort. Et d'autre part, je reçois souvent des écrivains locaux et qui ont vraiment du mal à faire publier leurs livres, qui sont obligés de s'autofinancer. Et là, vous proposez une alternative qui est quand même très intéressante.
Ah, tout à fait, parce qu'on fait un vrai travail d'éditeur. Par ailleurs, je tiens à préciser que tous nos livres sont disponibles sur commande en librairie, c'est-à-dire qu'une personne qui, d'autre part, n'a pas Internet ou n'a pas d'ordinateur, peut aller commander un ouvrage dans sa librairie et il recevra cet ouvrage franco de port. Il n'y a pas un centime de port à débourser. C'est aussi notre façon, en fait, de pouvoir continuer à promouvoir la culture, mais également à soutenir les libraires qui, en plus, en ont bien besoin en ce moment. Ça, c'était une petite parenthèse qui était importante. Et effectivement, les personnes qui sont un petit peu éloignées peuvent tout à fait commander leur ouvrage et le recevoir dans les très brefs délais, puisqu'en fait, nous réalisons les livres. Alors, nous fabriquons à la demande les livres dans les 24 à 48 heures. La seule petite exception, ce sont les livres couleur ou les beaux livres pour lesquels on est obligé de faire un micro-stock. Mais pour 300 titres au catalogue, à peu près, on a moins de 400 livres en stock.
Et puis surtout, vous permettez du coup à tout le monde de pouvoir s'exprimer, tous ces écrivains qui ne connaissent personne dans le monde de l'édition et qui sont vraiment mal partis, à moins d'écrire vraiment le chef-d'œuvre du siècle, et encore, il ne sera pas forcément lu s'ils ne sont pas connus.
Ben voilà, c'est que si on ne fait pas partie en fait, de certains réseaux, on a beau avoir écrit le chef-d'œuvre du siècle, malheureusement, on ne sera peut-être pas lu. Voilà combien d'auteurs me disent, on a envoyé des manuscrits papier, on a piégé des pages, ils n'ont pas été ouverts. Mmh. On nous les a renvoyés, ils n'ont pas été ouverts, on ne nous a jamais répondu. Ou on nous a renvoyé une lettre laconique qui nous explique que c'était très intéressant, mais que ça ne correspondait pas aux critères de la maison d'édition. Ça s'entend, je comprends. Et nous-mêmes, en fait, nous faisons des choix. Mais par contre, ces choix-là, on va toujours les étayer. C'est-à-dire qu'on expliquera à l'auteur, d'abord qu'on a lu son livre parce que c'est une obligation pour nous, c'est un engagement, et c'est le moindre des politesses que l'on doit à un écrivain qui vous a envoyé son ouvrage. Donc on lit tous les livres et on s'engage à le faire dans les 3 à 4 semaines suivant la réception, et on fait un retour circonstancié à l'écrivain, que ce soit favorable ou défavorable.
Oui, donc on peut dire que Nombre 7, c'est aussi l'éditeur qui remet la politesse au goût du jour, parce que c'est vrai que c'est très décourageant. À notre époque, on envoie des mails, on n'a jamais de retour, c'est humiliant quelque part.
Exactement. C'est vrai que je peux comprendre que certaines maisons d'édition sont extrêmement sollicitées. Nous le sommes. Mais c'est la moindre des politesses, quoi. Je veux dire, c'est normal. C'est notre métier, on s'est engagé pour ça. Moi, je me suis engagé pour que des gens m'envoient des manuscrits pour trouver des perles et pour en faire, j'espère, donner la possibilité, à tout le monde de pouvoir partager avec eux ces écrits extraordinaires.
Et puis, on peut dire en plus que vous avez été dans l'anticipation, parce que vous ne pouviez pas prévoir cette crise sanitaire. Mais en fait, vous avez pu pallier un certain manque de tous les côtés. Vous avez assuré 100% de votre continuité éditoriale quand même.
C'est ça, ben exactement, puisqu'en fait, alors, on a eu un petit coup de chance, en fait, on va dire quand même, parce que c'est qu'on devait installer un standard au mois de décembre, donc 2019, et on a opté pour un standard numérique. Le standard numérique, en fait, nous a donné la possibilité de mettre toute notre équipe en télétravail en moins de 10 minutes. Les appels qu'ils passent de chez eux ou qu'ils reçoivent sur leur poste au bureau sont les numéros du bureau. Donc ça n'a posé aucun problème à ce niveau-là. Mais par ailleurs, effectivement, étant donné qu'on a dématérialisé en fait toute notre structuration et qu'on a accès à nos différents serveurs pour pouvoir travailler online en direct de Nîmes ou de Paris ou de l'autre côté du monde, ça donne la possibilité en fait de continuer effectivement cette offre éditoriale, mais également on a, étant donné que nous sommes indépendants, notamment en diffusion et distribution, contrairement aux grands diffuseurs qui ont arrêté de produire et de diffuser des livres, nous avons continué à fabriquer, à vendre des livres et à partager des livres. Ça fait que les lecteurs ont pu avoir des bouquins, les écrivains ont pu continuer en fait à avoir, je dirais, leurs livres, voire publiés, et ont continué à vendre des livres.
Du coup, vous avez même créé de l'emploi.
Alors oui, puisqu'en fait, nous avons le jour où a été annoncé le déconfinement, donc le 29 mai, si je ne me trompe pas, on a signé un CDI avec un collaborateur qui s'occupera et qui s'occupe déjà, en fait, et qui était un petit peu avec nous, mais avec un emploi qui n'était pas cristallisé, et puis surtout qui était beaucoup plus court en termes de timing chez nous, qui s'occupe en fait de tout ce qui sont les événementiels, les participations au salon d'envergure nationale.
En tout cas, le plus important, moi, je pense, c'est que vous donnez la parole à tout le monde, parce qu'on voulait parler, par exemple, de mon cahier dessin, en deux mots.
Ouais, mon cahier de dessin, ouais.
De dessin, oui, qui a été, en fait, créé par Marine Lemercier, et ouais, qui est d'actualité, puisqu'on est au mois d'octobre rose, là. Et elle, en fait, c'est une femme qui n'avait jamais écrit, si j'ai bien compris, oui, qui dessine un petit peu, mais pas plus que ça. Et grâce à vous, elle a pu publier son livre.
Tout à fait. Bien, en fait, Marine est venue vers nous avec son projet. Alors, elle a un super coup de crayon, Marine.
Oui.
vous pourrez en juger. Et surtout, en fait, elle a un sens de la répartie extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'elle a une harmonie entre son coup de crayon qui est très jeune et qui est, je dirais, épuré, mais qui est très en vogue en ce moment, mais également elle a vraiment une répartie très intéressante et une très bonne analyse. Elle scénarise très très bien ses dessins, et donc en fait elle a croqué son cancer au sens propre du terme, avec des crowbars, et donc elle a illustré 3 tomes d'un livre qui s'appelle donc Mon cahier de dessin, et qui présente en fait un petit peu toutes les étapes qu'elle a pu rencontrer entre le moment où tout allait bien et puis le moment où elle est aujourd'hui en reconstruction et épanouie dans cette reconstruction malgré toutes les vicissitudes qu'elle a pu traverser dans toutes ces épreuves. Voilà, qu'on a pu faire, en fait, qui est la continuité de tout ce qu'elle a pu mettre en place à travers Facebook.
Il y a un de ses dessins, d'ailleurs, qui est vraiment trop marrant et qui illustre bien le reste de son œuvre. C'est celui où elle fait un bras d'honneur, elle a un foulard sur la tête et elle dit « je peux pas, j'ai chimio ».
Oui, tout à fait. Et en fait, elle a repris l'illustration, en fait, qui est assez connue, qui était en vogue aux États-Unis, en fait, où, en fait, lorsque les hommes étaient partis à la guerre, du coup, ben, ce sont les femmes qui ont pris en main le pays. Et donc, en fait, c'est une réutilisation de ce dessin assez emblématique, où elle dit, moi, j'y vais, j'ai guerre, quoi, c'est la guerre. On y va et on se lève et puis on va se battre, quoi. On est là, je suis là, je suis vivante et je suis debout et puis je compte pas me laisser faire.
Et puis pour en revenir à cette crise sanitaire, elle nous a tous quand même confrontés à l'isolement, mais d'autant plus certaines catégories de personnes qui sont en règle générale défavorisées, comme beaucoup de femmes, et surtout par exemple des femmes qui sont confrontées au cancer, qui ont vraiment besoin d'être entourées. D'habitude, elles allaient à leur séance de chimio avec des amis, ça faisait toute la différence, maintenant c'est plus possible. Et donc ce livre, je pense qu'il crée un lien, il est vraiment un ouvrage d'encouragement et de partage.
Tout à fait. En fait, comme vous, en fait, pas mal de relais dans les médias donc sont en train de se mettre en place, justement parce que cette initiative-là est un peu particulière. Mais je dirais que la finesse de l'analyse et des dessins de Marine, en fait, apporte vraiment un message d'apaisement et d'espoir qu'elle a d'abord, en fait, transmis et partagé sur Facebook, sur son Facebook, Marine_illustration. Voilà. Et en fait, c'est ça qui lui a donné l'idée et qui a, elle a été encouragée, justement, pour publier. Alors, il faut savoir que ce livre-là, les bénéfices que fait Marine sur ce livre-là, 1% sont reversés à la Ligue contre le cancer.
Oui, d'autant plus généreux de sa part. Et puis, oui, quand elle a créé son groupe sur le réseau Facebook, elle a eu plus de 6500 fans en quelques mois. C'est impressionnant.
Oui.
Peut-être que du coup, ça a donné l'idée à d'autres femmes de témoigner de ce qu'elles vivaient aussi.
Alors oui, j'ai vu, chez nous, pas spécifiquement, mais par contre, nous avons effectivement, on peut tous constater qu'il y a pas mal d'écrits, en fait, justement, de femmes essentiellement, donc en octobre et pour Octobre Rose, justement, qui parlent et qui ouvrent leur cœur par rapport à ce qu'elles ont vécu et qui partagent cela un peu comme une catharsis, de façon à la fois, je dirais, entre guillemets, un peu conjurer le mauvais sort et puis aussi permettre aux autres de leur expliquer que la vie continue et que même si on est malade et si on a rencontré donc cette grave maladie, c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras et qu'il faut continuer en fait à avancer, à lutter.
Oui. Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait souhaiter à Nombre 7 alors pour la suite ?
Alors qu'est-ce qu'il faudrait souhaiter à Nombre 7 ? Mais en fait, il faudrait souhaiter à Nombre 7 déjà de pouvoir continuer sur cette lancée, rencontrer de nouveaux partenaires, puisqu'en fait aujourd'hui nous sommes à la recherche de nouveaux, continuer en fait la mise en place de projets, alors à la fois pour Nombre 7, mais également faire bénéficier de tout ce que nous avons mis en place à des collègues éditeurs qui n'ont pas en fait développé tout ce système-là qui permet effectivement d'avoir du référencement, d'assurer, des fins d'édition. Vous avez des livres aujourd'hui qui sont en rupture. Chez Nombre 7, il n'y a plus de livres en rupture de stock. Parce qu'en fait, on les fait à la demande. Vous voyez ?
Oui, tout à
voilà,
fait.
Voilà, toutes ces petites choses-là, en fait, que nous avons imaginées, aujourd'hui, on peut les proposer à d'autres éditeurs. Et certaines, déjà, sont très intéressées, ont répondu présent pour, justement, utiliser notre modèle et permettre, en fait, d'abord que tous leurs livres soient visibles et référencés de partout, ce qui n'est pas toujours le cas, et même rarement le cas, mais surtout leur donner la possibilité de pouvoir répondre à toutes les sollicitations en France ou à l'étranger dans les librairies françaises ou même dans des librairies qui peuvent se trouver de l'autre côté du monde, à Okinawa ou bien à New York, pourquoi pas. Voilà. Donc, notre souhait, c'est vraiment de pouvoir faire ce qu'on appelle de la croissance externe, soit rencontrer de nouveaux partenaires qui viendraient eh bien en fait utiliser le modèle Nombre 7, soit pourquoi pas intégrer ou être intégré à des groupes qui nous permettraient en fait de continuer de poursuivre cette belle aventure qui a été vraiment mise à l'épreuve du feu et qui aujourd'hui a pris toute sa dimension malgré ce qu'on aurait pu penser, c'est-à-dire être en grosse difficulté. Eh bien écoutez, nous, ça a été pour nous vraiment un révélateur de réussite.
Oui. Ben merci pour ce témoignage très positif. Même dans cette période difficile, eh ben, vous avez su créer quelque chose qui tient la route et qui est juste, humain, accessible, qui donne la parole à tout le monde. C'est super important. Donc, merci à vous et puis pour votre témoignage.
Merci Catherine et puis bonne continuation.
Merci, au revoir. Ce bouillon de Chartreuse est terminé et on espère qu'il aide à faire entendre davantage la voix des femmes. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Bouillon de Chartreuse.
Je n'ai pas fui, ni même croisé, ni même compris. Du coup, je ne lui ai pas souri. Faut dire qu'on n'était pas tout près, que tout un quai nous séparait. Et puis, détail non négligeable, elle ne regardait que son portable. Peut-être aurais-je dû lui parler, mais le temps d'hésiter un moment. Dans la foule s'est évaporée, celle que je surnomme à présent
Mademoiselle X.
Une parfaite inconnue que c'est
Mademoiselle X. Oh, oh, oh. Mademoiselle X.
Je ne saurais dire plus de ça
Mademoiselle X.
Très étrange, je l'aime déjà, pourtant je ne la connais pas. À part peut-être un vague parfum, je ne me souviens vraiment de rien. Elle avait des yeux certainement, mais dire combien, je ne sais plus. Et sans doute aussi des vêtements, sinon je me serais souvenu de
Mademoiselle X.
Une parfaite inconnue que c'est
Mademoiselle X. Oh, oh, oh. Mademoiselle X.
Je ne saurais dire plus de cette Ça fait bientôt 6 mois que je ne la connais pas. Pourtant, je lui en veux déjà, et je ne sais pas vraiment pourquoi. Si je la reconnais au détour d'un quai, d'un couloir, un de ces jours, je lui dirai qu'il y en a marre et qu'il vaut mieux qu'on se sépare.
Mademoiselle X,
une parfaite inconnue que c'est
Mademoiselle X. Oh, oh, oh. Mademoiselle X,
je ne saurais dire plus de cette
Mademoiselle X.